Bonjour, je m'appelle Myriam Alma, je dirige l'émission de reportage long format de BFM TV. Aujourd'hui, on va vous parler de l'affaire de la Bac Nord de Marseille. Bac Nord, ils parlent enfin, c'est notre nouvelle série documentaire Ligne Rouge.
Je m'appelle Sébastien Soulet, je suis un ancien policier de la Bac Nord de Marseille. J'ai été mis en examen dans l'affaire dite de la Bac Nord en octobre 2012.
Passé 2 mois et demi en prison.
J'ai été incarcéré 74 jours.
Et des choses que vous auriez dû faire autrement ?
Avec le recul aujourd'hui, oui, bien sûr, une fois que le film est fait.
Ça m'a détruit, voilà, c'est une cicatrice indélébile. Et qu'on aura à vie, je pense, jusqu'à ma mort, j'y penserai.
Les voix que l'on entend, ce sont celles des 3 anciens policiers de la Bac Nord. 3 des principaux mis en examen dans cette affaire. C'est la première fois qu'ils s'expriment, ils livrent leur version des faits. Jérémy, tu es journaliste à Ligne Rouge, c'est toi qui as réalisé cette série documentaire. En 10 ans, les policiers mis en cause ne s'étaient jamais exprimés. Est-ce que déjà tu peux nous raconter comment tu les as convaincus de parler ?
Oui, alors il a fallu faire preuve de beaucoup de patience parce qu'eux ont attendu 10 ans. Lorsqu'on est journaliste et qu'on va vers eux, ils nous disent tout d'abord qu'on n'est pas les premiers, loin de là, à les contacter, à les solliciter. Certains ont tout de suite fermé la porte, m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. D'autres ont accepté d'échanger avec moi d'abord par téléphone et puis de me rencontrer. Alors pour ça, c'est tout simple, je suis descendu à Marseille, parce que nous on est basé à Paris, mais donc je suis descendu à Marseille passer une semaine sans caméra dans l'objectif de les rencontrer, de leur présenter notre projet. Notre projet, c'était une série de 3 épisodes sans commentaires, donc sans voix off qui vient ponctuer les interventions des personnages. Et donc lorsqu'on leur a expliqué ce qu'on souhaitait faire, ils m'ont tout de suite parlé d'une sorte de méfiance vis-à-vis des médias en général.
Et en particulier de BFM parfois, qui peut être un frein.
Voilà, parce que la chaîne avait beaucoup couvert l'affaire au moment de son éclatement en 2012. Donc, ils en gardent un souvenir amer. Donc, il a fallu effectivement faire un travail de pédagogie aussi. On n'était pas là ni pour leur offrir une tribune, mais surtout pas non plus pour les enfoncer de nouveau dans l'enfer qu'ils ont vécu pendant ces 10 années. Donc, voilà, il a fallu leur dire que je venais, on n'est jamais objectif, mais en tout cas avec un esprit de faire un travail qui soit nouveau, c'est-à-dire porter à l'écran leurs paroles, leurs témoignages, ce qu'ils n'avaient encore jamais fait.
2 octobre, je me rappelle comme c'était hier, quoi. C'était le matin, c'était autour de 9h en fait. Lorsqu'ils sont venus, ils ont déclenché leur opération et ils sont venus tous. Enfin, moi, ils sont venus me chercher chez moi. Ça a sonné et j'ai entendu, c'est la police. Et j'ai compris que parce qu'ils n'avaient pas l'accent de Marseille, ils avaient l'accent de Paris. Donc j'ai dit, il doit y avoir un truc là. Ils ont tout démonté dans la maison. Ils ont regardé sous le lit des enfants, dans la niche des chiens. De partout. Ils ont mis la maison sans dessus-dessous. Je disais à ma femme, t'inquiète pas, je rangerai quand je rentrerai, quoi, t'inquiète pas. Mais ils ont saccagé, parce qu'ils sont pas cassés, mais ils ont regardé les albums photos. Je me demande pourquoi. Enfin, ils ont tout démonté dans la maison.
Donc ils ont tapé, ils ont dit, voilà, ils vous sortent le fameux discours que tout le monde entend, hein, vous êtes placé en garde à vue. Je pense qu'ils cherchaient des stupéfiants, donc il y avait le chien qui était là, donc eux, ils ont fouillé mes affaires, ils ont fouillé mon sac avec lequel j'allais au travail, ils ont fouillé la voiture.
Il faut aussi dire que beaucoup sont encore en service, ils sont encore policiers, et donc les policiers sont soumis à un devoir de réserve, ils n'ont pas le droit de parler comme ça sans l'aval de leur hiérarchie, donc c'était un frein supplémentaire à leur prise de parole.
Alors tu disais, ça a été long, tu as commencé à travailler sur le sujet au mois de mai 2022, est-ce que tu peux nous rappeler déjà pourquoi on a choisi de consacrer un numéro de Ligne Rouge à cette affaire ?
Alors c'est vrai qu'on est 10 ans après son éclatement, on est en mai 2022, il y a déjà eu un premier procès, il a eu lieu en avril 2021, il y a eu 11 condamnations avec des peines de prison avec sursis et 7 relax. Mais surtout, il y a un deuxième procès en appel qui doit avoir lieu en septembre. Et donc, on décide ensemble que ce serait intéressant de diffuser cette série documentaire à l'occasion du début du procès.
Oui, on se dit que ça va nous faire un élément de lancement, que ça va justifier ce documentaire. Sauf que, patatras, c'est vraiment une surprise, ce procès est annulé.
On est au mois de juin, la fin du mois de juin. Je suis à Marseille, justement, en pleine interview. Et là, mon téléphone sonne. C'est l'un des avocats l'avocat des policiers mis en cause, qui m'appelle pour me dire que le procès est tout simplement annulé. C'est-à-dire que le parquet général s'est dessaisi de l'affaire. C'est possible dans le fonctionnement de la justice française, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et donc, ça rebat complètement les cartes parce que les policiers, dans un premier temps, m'avaient dit que s'exprimer comme ça publiquement à la télévision avant un procès, ça pouvait leur desservir, ça pouvait leur nuire justement au moment du procès. Donc, ça justifiait aussi leur réticence. Là, ça relance complètement les dés. Donc, je reprends contact avec eux. Je leur repropose de témoigner. Et là, effectivement, je sens que certains ont envie de parler parce que cette affaire, elle les a meurtris. On le comprend bien dans la série documentaire. Mais aujourd'hui, ils ont aussi envie de livrer leur version des faits. Ils l'ont encore jamais fait par réticence, par méfiance. Mais je sens que certains ont cette envie-là. Et là, on est après le procès. Donc, ça devient possible.
Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un autre obstacle. C'est un peu le droit à l'oubli. C'est qu'ils ont en fait envie de tourner la page.
Voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que là, ça y est, il y a une vérité judiciaire. L'affaire est jugée. Il n'y aura plus de procès. Donc, certains me disent, c'est bien gentil de nous proposer de parler, mais nous, ça y est, cette affaire, elle est derrière nous, on veut passer à autre chose, aller de l'avant. Donc, il a fallu aussi leur expliquer, enfin, en tout cas, c'était mon argument, que pour le grand public, en fait, c'est une affaire de ripoux, que malgré la décision de justice qui leur est plutôt favorable, ils sont restés aux yeux du grand public avec cette étiquette de ripoux, et que donc, ce documentaire qui revient sur toute l'affaire et qui leur donne la parole et qui permet aussi de montrer qu'ils ne sont pas les ripoux qu'on a bien voulu dire au début, eh bien, documentaire, c'est aussi l'occasion pour eux de retrouver leur honneur. Et c'est ça aussi, c'est à cet argument-là qu'ils ont été sensibles.
Aujourd'hui, je suis policier en fonction. Même si la flamme est... On va pas dire qu'elle est éteinte, non. Il est parti, qui est, c'est sûr, on a perdu une partie de soi. Mais on se dit, finalement, on peut être utile encore à la société. On essaie de se remotiver et puis de surmonter tout ça.
Ma vie a quand même continué, j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai pas mal changé aussi puisque maintenant j'ai fonction syndicale. Je prends du plaisir à défendre mes collègues, mais il y aura un avant et un après Bac Nord. Vous êtes entaché à vie, hein. Vous avez cette étiquette à vie. Hein.
J'ai dit, j'aimerais bien passer le concours d'infirmier parce que c'est un métier assez polyvalent et qui n'est pas si éloigné que ça que du métier de policier, où on est quand même en contact avec la population et on est utile. Pour moi, ça a été salvateur. Là, on va dire, ça a été une seconde naissance pour moi.
Donc, ils finissent par te donner un accord de principe, mais ce n'est pas si simple.
Ce n'est pas simple. Il y a encore une fois beaucoup de méfiance. Ils me demandent, par exemple, qui sont les autres intervenants du reportage. Ça peut arriver hein, souvent dans nos enquêtes, dans nos reportages, qu'on nous pose ce genre de questions. Et là, quand je leur répondais eh bien, que je faisais aussi intervenir des accusateurs, des personnes qui étaient de l'autre côté, ça les irritait. Ils me disaient, mais tu vas en fait rouvrir le débat, reposer la question de savoir si on est des ripoux ou pas, alors que la justice a dit non.
Tu as eu plusieurs rendez-vous qui ont été annulés pour ces raisons-là.
À l'été 2022, tu te souviens, je t'appelle. Donc c'est la période de vacances de Ligne Rouge. Moi, j'étais sur le point de me rendre à Marseille pour faire une interview et je t'appelle pour te dire qu'ils m'ont annulé au dernier moment parce que l'un d'entre eux avait changé d'avis. Et comme c'est quand même un groupe assez soudé, hein, en disant qu'ils ont appris aussi à réfléchir entre eux, ils prennent les décisions souvent entre eux, et bien là, ça a fait un effet domino qui nous a été complètement défavorable. Ils se sont tous ravisés et donc moi, je ne suis pas monté dans ce train.
Oui, on se disait d'ailleurs, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va réussir à faire ce sujet? Et puis finalement, à la rentrée, tu as repris les choses en main. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à reprendre contact avec eux et à finalement les convaincre à nouveau?
Après ces longues semaines de silence, l'un d'eux accepte de me prendre au téléphone et m'explique enfin pourquoi il s'était ravisé, donc je comprends. Donc là, c'est encore une fois un travail de pédagogie et de transparence, parce que s'il n'y a pas de lien de confiance, il n'y a pas de documentaire. C'est-à-dire qu'on leur a fait toutes les propositions en disant, ils ont vu le succès qu'a eu le film Bac Nord aussi, 2 millions d'entrées au cinéma, donc ils savent qu'il y a une appétence de la part des journalistes, mais ils ne veulent pas confier leur parole à n'importe qui. Donc c'est vraiment une question de confiance, c'est énormément de temps passé au téléphone, et puis pour les rassurer, je leur propose aussi d'associer leurs avocats. Parce qu'un avocat peut aussi cadrer l'interview. Je leur propose de leur donner les thèmes de notre entretien, de notre interview avant, pour qu'ils aient aussi le temps de se préparer. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude des caméras. C'est pas toujours évident hein, pour le Kidam ou alors pour des personnages comme ça de s'exprimer face caméra. Et c'est vrai qu'ils étaient rassurés quand je leur ai proposé de leur expliquer un petit peu sur quoi notre interview allait porter.
Est-ce que certains peuvent se poser la question, est-ce qu'on peut demander de l'argent dans ce type de documentaire pour obtenir ce type de témoignage? Est-ce que ça arrive qu'on demande de l'argent?
Alors, ce n'est pas une question taboue. Moi, ça m'est déjà arrivé dans d'autres reportages qu'on me demande de l'argent. Les gens ont conscience parfois de la valeur de ce qu'ils donnent lorsqu'ils s'expriment à notre caméra et donc certains peuvent nous demander de l'argent. En l'occurrence, dans cette affaire-là, ça n'est pas arrivé du tout. On est vraiment sur... ce sont des hommes blessés qui cherchent à retrouver leur honneur et donc ils ont beaucoup plus à cœur de, effectivement, être réhabilités, retrouver leur honneur que gagner de l'argent. Ils ont tellement perdu dans cette affaire. Il y a eu des divorces, il y a eu des policiers qui ont perdu leur statut de policier. Donc l'argent, c'est vraiment pas leur souci. En tout cas, il n'en a jamais été question entre nous.
Et précisons que quand on nous le demande, d'ailleurs, on répond systématiquement qu'on ne donne pas d'argent en échange de témoignages, que sinon ça fausserait complètement ce témoignage et ça fait partie des principes qu'on a ici et très souvent. Alors cette rencontre, comment ça se passe justement, qui a enfin lieu après de multiples allers-retours, annulations, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu les vois séparément ou tous les trois?
C'est vrai qu'il y en a trois qui finissent par me donner une réponse définitive. J'ajoute quand même qu'il y en avait un quatrième qui avait d'abord donné son accord, qui me disait « Allez, je le fais à visage découvert, mais je suis encore policier en fonction, donc j'ai besoin de l'accord de ma hiérarchie. » Moi, du coup, j'ai pris contact avec le ministère de l'Intérieur et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ce quatrième homme s'est désisté. Donc, on décide de continuer avec les trois policiers qui acceptent. On décide de le faire sur fond noir pour la sobriété, hein. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un fond pourrait être connoté. Là, on veut vraiment pouvoir se concentrer sur leurs témoignages, leurs propos, et donc ce fond noir apporte cette sobriété-là. Il faut ajouter que certains ont demandé l'anonymat. Sur les trois policiers, il y en a un qui est protégé par son étiquette syndicale, il est délégué syndical, donc lui peut s'exprimer à visage découvert, c'est ce qu'il fait. Un autre a été révoqué, donc il n'est pas soumis au devoir de réserve, mais il est devenu infirmier, il a une nouvelle vie. Et il redoute que ça lui porte préjudice dans sa nouvelle vie d'infirmier d'apparaître à visage découvert. Donc il me demande un anonymat dont on convient ensemble, c'est-à-dire que je lui montre ce que ça rend à la caméra et on valide ensemble. C'est comme ça, c'est vraiment avec ce lien de confiance qu'on avance. Le troisième homme est encore policier en fonction et lui témoigne sans l'aval de sa hiérarchie. Donc lui prend un maximum de risques. Il pourrait avoir des représailles, des sanctions administratives. Donc on convient d'un cadre de caméra qui le protège totalement, c'est-à-dire qu'on décide d'un cadre avec une ombre chinoise. C'est un procédé qu'on utilise parfois. Il est absolument méconnaissable. On lui propose également de modifier sa voix. Et donc c'est ainsi qu'on procède. Ils ont aussi tenu à ce qu'on soit à plusieurs. C'est-à-dire que l'un, je suis descendu une première fois pour interviewer le premier, celui qui s'exprime à visage découvert. Les deux autres, c'était ensemble, dans un même lieu. Ça les rassurait aussi.
Ce sont des interviews qui durent combien de temps, à peu près?
Alors déjà, il y a une heure d'installation de matériel, parce qu'installer un fond noir, on est par exemple, on était pour le premier dans son bureau syndical, c'est-à-dire que c'est une petite pièce très exiguë, d'à peine 9 mètres carrés. C'est pas anodin de poser un fond noir qui soit assez large, avec les lumières. Donc il y a un temps d'installation où le caméraman, donc Étienne Grelet, qui a réalisé l'enquête avec moi, installe le matériel. Et pendant ce temps-là, justement, nous, on discute avec les policiers pour préparer l'interview. Donc, ça les met aussi à l'aise. Et ensuite, c'est assez long, hein. Il faut compter... aller facilement 2 voire 3 heures d'interview, parce que c'est aussi ça l'engagement que je prenais, c'est qu'on peut se reprendre, on peut reprendre les phrases. L'idée, c'est vraiment qu'eux aient le sentiment de donner le meilleur d'eux-mêmes, et puis que nous, évidemment, on puisse avoir suffisamment de matière, c'est comme ça qu'on appelle ça, de matière, et bien ensuite pour faire un montage et pour raconter l'ensemble des étapes qui ont créé cette affaire.
Qu'est-ce qui t'a marqué justement lors de ces interviews? Qu'est-ce qui t'a spécialement frappé?
C'est que on se rend bien compte, ils ont des personnalités complexes, il y a beaucoup de nuances, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent par exemple que lorsqu'ils étaient policiers en BAC, c'est-à-dire en civil dans les quartiers nord à la recherche du flag, ils reconnaissent qu'ils étaient dopés à l'adrénaline, à l'esprit de compétition aussi, parce qu'on parle de jeunes hommes qui ont entre 25 et 35 ans, où il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'orgueil, il y a envie de faire mieux que le camarade.
Personnellement, je marche à l'adrénaline, c'est ça qui était mon, on va dire, mon motif. C'était l'adrénaline que procurait courir après quelqu'un, attraper. C'était ça, c'était l'adrénaline.
Voilà, ils reconnaissent que parfois, ils étaient plus motivés par l'envie de faire mieux que l'envie de faire bien pour l'intérêt général. Ça, c'est déjà une forme d'aveu ou en tout cas une forme d'honnêteté vis-à-vis de leur pratique qui était vraiment appréciable. Et puis, ils ont aussi reconnu parfois jouer un peu avec la ligne rouge.
C'est vrai qu'on avait un peu peur de la langue de bois, qu'ils soient un peu pudiques, qu'ils se restreignent. Et on a été assez surpris par cette espèce de franchise qu'ils avaient sur leur métier, puis avec du recul également.
Oui, c'est là peut-être que le fait d'avoir été patient, en tout cas bien malgré nous, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir réaliser ces interviews plus tôt, mais il y avait vraiment un lien de confiance qui s'est créé. Ça faisait déjà 4 mois que je les connaissais à présent. Et donc voilà, je pense que les premières carapaces étaient tombées déjà. Et donc, lorsqu'ils se sont livrés, entre nous, c'était clair, c'était on y va une bonne fois pour toutes et vous me racontez votre vérité. Et donc, ils ont reconnu, par exemple, avoir eu recours à des pratiques illégales, c'est-à-dire, par exemple, recourir à des indicateurs, des informateurs, donc ils n'avaient pas le droit d'en avoir à cette époque-là, et pour les appâter, eh bien, de les payer avec de la drogue saisie sur des dealers. Donc ça, c'est complètement illégal. Certains ont été condamnés pénalement pour cela. Et donc, c'était aussi ça qui les rassurait, c'était que ça y est, la justice était passée. Donc oui, certains ont été condamnés, ils ont payé. Et donc, ils me le reconnaissaient. Et donc, voilà, c'était vraiment, il n'y avait pas de langue de bois, on était sur quelque chose de franc. Et c'est ça aussi qui fait la valeur de leur témoignage aujourd'hui.
Alors, ce qui fait aussi la force de cette série, ce sont ces enregistrements de l'IGPN qui les avaient placés sur écoute, qu'on a pu entendre. Dans les voitures de ces policiers de la BAC, et c'est ça qui est fort, c'est qu'on a l'impression d'être avec eux en voiture.
Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend ces écoutes. En 10 ans, jamais elles n'ont été diffusées, sauf au procès en avril 2021, puisqu'elles sont au cœur de l'enquête, elles sont diffusées dans la salle d'audience. Et là, ce que me racontent les policiers, c'est que lorsqu'elles étaient diffusées, eh bien, on n'entendait rien parce que ces écoutes, elles proviennent de micros placés sous les volants des voitures, donc c'est-à-dire juste à côté du moteur, donc il y a beaucoup de bruit. Les policiers roulaient souvent avec les fenêtres ouvertes, avec la radio, ils se parlaient, ils avaient des conversations parfois plusieurs en même temps. Donc c'est vrai que sur les écoutes, on l'entend dans le documentaire, on n'entend parfois pas grand-chose. Et il y a même eu des erreur d'interprétation des enquêteurs de l'IGPN parce qu'ils retranscrivaient eux-mêmes parfois à la main ce qu'ils entendaient. Et il y a eu des erreurs d'interprétation majeures qui se sont ensuite retournées contre les enquêteurs eux-mêmes.
Oui, c'est ça qui a permis de dégonfler l'affaire. Est-ce que ces écoutes, c'est quelque chose de public qu'on trouve facilement ?
Alors non, le dossier d'instruction, donc dans chaque affaire il y a un dossier d'instruction qui est une version papier, lui j'ai pu me le procurer assez facilement parce que l'affaire elle a été jugée, mais ces écoutes elles n'en faisaient pas partie. Et c'est vrai que c'était assez difficile de me les procurer. Il y avait peu de personnes qui les avaient. Alors évidemment, on ne dévoile pas nos sources, mais je peux vous dire qu'il a fallu être patient et ça a été un travail de fourmi pour les retrouver. C'est ce qui fait effectivement l'intérêt aussi de cette série documentaire 10 ans après. C'est qu'on entend les policiers s'exprimer au quotidien avec leur vocabulaire parfois très fleuri. On entend des choses, c'est vrai, qui prêtent, qui alertent l'oreille. On entend par exemple, bon, vous le découvrirez dans le reportage, mais on entend un policier qui cherche à blanchir de l'argent. Et sans vous révéler de ce dont il s'agit, on s'aperçoit finalement que ce n'était pas si simple que ça.
On ne dévoile pas nos sources, c'est très important parce que c'est une manière aussi de les protéger et qu'elles puissent nous parler. Ça fait partie de notre métier. Quand est-ce qu'on s'est dit, Jérémy, qu'on avait assez pour raconter cette histoire ?
Quand on a recueilli les témoignages des policiers, quand on a pu les mettre en image aussi, c'est-à-dire que lorsqu'ils racontent des événements très particuliers, comme par exemple ce jour où ils sont arrêtés par les policiers de l'IGPN, eh bien nous, on a fait un travail de mise en image, c'est-à-dire qu'on est allé faire des images au ralenti avec Étienne Grelet dans une maison pour illustrer eh bien, ce moment où les policiers sont arrêtés. On pense que c'est important aussi parce qu'on est évidemment dans un format télévisuel et donc l'idée, c'était de mettre en image, de ponctuer par l'image ces témoignages-là pour les mettre davantage en valeur. Donc, c'est-à-dire qu'en septembre 2022, donc on est à peu près 5 mois après le début de l'enquête, on est passé à la phase de montage. Et donc là, c'est 1 mois et demi enfermé dans une petite salle noire avec une monteuse, Élodie Noiret, et avec qui j'ai découpé les interviews. Et puis avec toi aussi, on a choisi ensemble comment on allait structurer cette série documentaire pour qu'elle soit intéressante et que chaque épisode raconte une histoire et nous donne envie d'aller voir le suivant. C'est aussi l'intérêt de la série.
Il a fallu aussi donner la parole à tous les protagonistes. Évidemment, il n'y avait pas que les policiers pour avoir une idée complète de ce qui s'était passé, ce qui prend du temps aussi.
Oui, voilà, on se souvient du film Bac Nord qui avait fait polémique pour être trop du côté des policiers, les héroïser. Nous, on voulait faire un travail journalistique, conscient qu'on pourrait être comparé au film. Donc, on s'est vraiment attaché à aller chercher aussi des témoignages du côté des accusations. Donc, on est allé retrouver le premier lanceur d'alerte qui a dénoncé les pratiques de la Bac Nord. On a interrogé aussi des responsables de la police marseillaise en poste à l'époque, le préfet. Bref, toute une galerie de personnages qui sont au cœur de l'enquête et qui nous permettent de raconter cette histoire avec tous les points de vue et donc sans voix off, puisqu'on a on a l'essentiel des intervenants qui nous racontent ce qu'ils ont vécu à la première personne.
Ça a pris combien de temps au total pour qu'on ait une idée de combien de temps il faut pour réaliser une série comme ça?
On a commencé en mai 2022 et donc la diffusion c'est début janvier 2023, donc ça fait quand même plus de 7 mois. 3-4 mois d'enquête et de tournage, et puis un mois et demi de montage avec Élodie Noiret pour tout mettre en image et que cette histoire fasse finalement 70 minutes, hein, 3 épisodes de 23 minutes.
Ensuite, il y a la diffusion du sujet. C'est un moment quand même important, surtout quand on a tissé des liens comme ça avec des personnes pour qui il y a un enjeu. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on est toujours en lien avec eux?
Oui, c'est vrai que vraiment avec eux, ça a été, on ne pouvait pas faire sans l'affect. C'est des policiers c'est des hommes qui fonctionnent à l'affect. Hein. Certains sont beaucoup plus pragmatiques. Eux, c'était vraiment une relation de confiance qu'ils cherchaient. Et donc, c'est celle qu'on a eue tout le long. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient des questions, je leur répondais. Dès qu'ils avaient des inquiétudes, on en parlait ensemble. Il fallait être transparent, non pas parce que j'étais là pour leur donner une tribune, mais parce que ils me faisaient confiance. Moi, je trouve que c'est normal aussi dans notre travail de respecter comme ça une sorte de lien de confiance avec les personnes qui nous donnent leur témoignage. Et donc, c'est vrai que les quelques jours juste avant la diffusion, il y avait peut-être il y a eu une montée d'angoisse pour eux. Ils avaient peur tout simplement qu'on relance le débat, que cette étiquette de ripou leur revienne à nouveau au milieu du visage. Donc voilà, il fallait, c'était beaucoup de temps au téléphone, hein, tout simplement. Moi, là, j'étais déjà à Paris, ils sont à Marseille et dans les environs. Donc, c'est essentiellement au téléphone qu'on échange.
Il faut dire aussi qu'ils peuvent eux-mêmes annuler à tout moment leur participation. Il y a aussi cet enjeu-là, de pouvoir l'annuler et de compromettre la diffusion.
Voilà, on ne peut jamais faire un travail contre des personnes qui interviennent dedans. Elles nous font confiance, elles nous donnent leur accord pour montrer leur image et donc donner à l'écran leur parole. Il s'agit de le maintenir jusqu'à la diffusion et même, j'allais dire, après la diffusion. C'est assez important. Donc vraiment, il y a eu ce temps d'échange et je peux vous dire que les quelques heures avant la diffusion, je les ai passées au téléphone avec ces policiers-là qui, effectivement, étaient inquiets. Nous aussi, à BFM TV, on met en avant nos reportages. Donc, il y a eu de la promotion, c'est-à-dire qu'on voyait des extraits. Donc, ils avaient déjà des premiers aperçus. Des gens leur en parlent, c'est normal. Donc,
ils ne l'avaient pas vu avant, il faut peut-être le préciser.
Oui, c'est vrai que c'est un principe journalistique qu'on applique tout le temps, sauf parfois de rares exceptions, quand il y a des choses qu'on doit flouter, quand il y a des visionnages techniques. Mais c'est très rare et c'est vraiment quand il s'agit de la sécurité physique des personnes. Là, en l'occurrence, ils m'avaient fait confiance. Donc, effectivement, je les avais prévenus qu'il ne s'agissait pas de leur montrer avant. Donc, c'est un lien de confiance. C'est-à-dire qu'ils prennent un risque. Et là, visiblement, je les ai eus après la diffusion. Ils ne regrettent pas parce que les retours qu'ils ont de la part de leurs proches sont bons. Et puis, surtout, ce qu'ils me disent, c'est que ça reflète la réalité. Donc, ça, pour nous, c'est le plus important. C'est-à-dire que nous, c'est du journalisme. On a beau faire de la reconstitution, on a beau faire de la mise en image, ça reste avant tout un objet journalistique qui se veut donc fidèle à la réalité. Et je vais te dire, juste après la diffusion, j'ai eu l'appel du procureur de la République qui a requis contre ces policiers-là. Donc, quelqu'un qui était plutôt de l'autre côté. Hein, il a requis des peines plus lourdes que ce qu'ils ont obtenu. Et il m'a dit que ce travail-là, il le trouvait très fidèle à la réalité. Là, pour nous, on a tout gagné quand à la fois les policiers et le procureur de l'autre côté trouvent que c'est équilibré et nuancé. C'est pour nous assez important.
Merci Jérémy. Vous pouvez retrouver notre série Bac Nord, il parle enfin sur RMC BFM Play et ce podcast sur toutes les plateformes de streaming.